Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Physique quantique et ratatouille, l'anthropocène microbiote. Tu vas y arriver, Alex, tu vas y arriver.
Salut Alex.
Salut Charlie.
Je vois que tu pratiques la méthode Coué.
La méthode de
Coué. La méthode Coué, du nom du pharmacien Émile Coué. Tu sais, il a laissé son nom à la méthode d'autosuggestion positive.
Bah oui, parce que c'est ce que je faisais. Ouais,
Tu sais que dans un simple bonjour le matin, on pouvait percevoir la personnalité des gens.
Je savais pas. Et moi, je suis un peu épuisé. Alors, je vais prendre un petit café avec 3 sucres.
Ça Alex, oulala, le sucre, c'est notre drogue quotidienne. Fais attention.
Quoi?
Ah bah oui, le soleil n'est pas encore levé que tu as déjà 5 à 10 grammes de cette substance très addictive dans le sang.
Okay. Mais je vais prendre un petit chocolat à la place.
Malheureux, mon Dieu, mais tu sais que le chocolat pourrait disparaître de la surface de la Terre d'ici 2050.
Lol.
C'est dans le livre de l'invité.
Oui, encore un qui sait tout, il est français, j'imagine.
Oui, tu le connais d'ailleurs.
Bon, tu vas me raconter ça, mais d'abord je vais prendre des vitamines.
C'est inutile, c'est même parfois dangereux.
Mais qu'est-ce que je peux faire alors?
Bah, tu devrais dormir plus.
Ouais, allons bon. Ouais,
bah, toutes les études le disent, hein, le sommeil c'est ta crème de beauté.
Eh hein. Ben ouais, j'ai déjà lu ça quelque part.
C'est là devant toi, c'est dans le livre de Mathieu Vidard, figure-toi.
Oui, mais je piche pas tout, voilà.
C'est passionnant, le livre s'appelle Dernière nouvelle de la science. Et on apprend des choses à chaque page.
Mais oui, mais du coup, tu dors pas et c'est pas bon, tu viens de le dire. Mais ça, tu penses, il se garde bien de l'écrire dans le bouquin.
Alex, tu sais quoi, prends pas de café parce que t'es déjà un peu nerveux là.
Je suis pas nerveux!
Ok. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Tartup, cet espace où à côté de la blague, l'actualité a l'air un peu tarte. Et voici les 3 infos qui ne vont pas rentrer dans le moule. Le Monde a enquêté sur les millions d'euros distribués par Coca-Cola à des chercheurs et des experts de la santé afin de minimiser les effets nocifs des sodas comme l'obésité ou le diabète.
Ça c'est grave, hein, ça, parce que si les gens ils s'en rendent compte...
Bon,
oui, évidemment. En France, la culture générale peut être source de traumatisme pour celui qui en est dépourvu ou qui pense en être dépourvu. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui écoutent France Inter.
Si on ne parle de rien.
Oh, c'est pas vrai, on parle de tout, de ce qu'on va manger,
Ça vole pas très haut.
Voilà. La radio numérique progresse au point qu'elle arrive dans nos voitures. Ça s'appelle le DAB, Digital Audio Broadcasting. Aujourd'hui, les Français possèdent en moyenne, j'ai fait le geste
oui,
pour ça,
bah,
le DAB.
Oui. Brillamment.
Aujourd'hui, les Français possèdent en moyenne 6 supports pour nous écouter.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
Et voilà. Lui, on peut le consommer en podcast, en gel ou en spray, Alex Vizorek.
Et moi, j'ai Bobonne et la radio au même endroit. Bonjour Charline Vanoulaquer et une belle équipe autour de la table aujourd'hui. À 17h20, il nous revient du Festival de Cannes où apparemment Leonardo DiCaprio et Brad Pitt lui auraient demandé des conseils de séduction. C'est Hippolyte Girardot.
Bonjour, oui, j'étais à Cannes ce matin, je viens d'arriver, je vais en parler.
Très bien. C'est ça.
C'est efficace. Pardon de vous faire revenir.
Pour une fois, je
on était déstabilisés. 17h30, ce week-end, elle n'ira pas voter car la Suisse s'en fiche éperdument de la destinée de l'Europe vu que ce pays se considère comme un drone posé sur le Titanic. C'est Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, c'est la fête des voisins en Suisse et en France.
C'est pas vrai.
Ouais, et dans l'au-delà aussi.
Ah, ouf, très bien. À 17h40, celle qui ira voter dimanche avant l'apéro, sans quoi elle pourrait cocher Francis Lalanne sur un malentendu. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex, de quoi je parle aujourd'hui? D'un livre, comment il s'appelle le livre? À jeter sans ouvrir, et vous Alex, qu'est-ce que vous jetez sans ouvrir?
Je vais réfléchir d'ici là, parce que j'y ai pas pensé.
À tout à l'heure.
17h55, Peter et Sloane n'étant pas disponibles, on aura un autre couple de chanteurs pour terminer la semaine, car oui, Frédéric Fromet a enfin trouvé une meuf pour l'accompagner. Surprise, surprise.
Et quelle meuf. Restez avec nous surtout. Et voici celui qui va monter le son. Vous êtes, you are...
Mathieu Vidard.
Mais non.
Oui.
Charline Vanoulaquer, Alex Vizorek, par Jupiter.
Mathieu, qu'est-ce que vous foutez là? Il est 17h.
Je devrais être en week-end, je fais des hors-sup.
Ça vous fait quoi d'être à une heure de grande écoute?
Salaud. Et le matin, la matinale, 7h20, c'est pas une heure de grande écoute, non?
Pardon.
Chers auditeurs, vous l'adorez, Mathieu Vidard. Nous l'avons invité pour vous faire plaisir. Vous publiez les dernières nouvelles de la science, parues chez Grasset, une coédition avec France Inter. Vous avez retravaillé vos chroniques matinales que vous distillez tous les jours, du lundi au jeudi.
Ça m'a pris du temps, d'ailleurs.
Mathieu Vidard qui présente bien sûr tous les jours La Tête au Carré. Dans l'exercice de la chronique, Mathieu, on sent votre sensibilité littéraire. Vous avez d'ailleurs fait un bac littéraire. Rappelez-nous comment vous avez trouvé l'assurance de passer au journalisme scientifique?
Oui, complètement par hasard en fait. Hein. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de ma vie de faire de la science parce que j'étais vraiment très très nul à l'école. J'ai eu un au bac en maths, donc a priori j'étais perdu à tout jamais pour les matières scientifiques. Ça ne m'intéressait absolument pas, je détestais ça. Le seul truc qui devait me relier à la science, c'était peut-être Jules Verne, parce que je suis nantais. Donc c'est peut-être remonté un peu à la surface, mais vraiment, non, c'est un coup de fil un jour en 2006 de la direction de France Inter qui me dit « Est-ce que tu voudrais présenter une émission de science tous les jours ?» Donc j'ai eu quand même très très peur. Je peux vous dire que j'ai passé un sale été en me disant « Tous ceux que je vais avoir au micro, là, il va falloir que je sois quand même à la hauteur. » Et quand j'ai reçu mon premier prix Nobel en 2007, Albert Fert, qui venait pour parler de la magnéto-résistance géante et de la spintronique des électrons. Je peux vous dire que j'étais vraiment comme ça, parce que faire une heure d'émission là-dessus, c'était...
Vous avez travaillé d'arrache-pied, vous faites référence aujourd'hui. Quand vous avez relu vos chroniques pour les compiler dans un ouvrage, est-ce que certaines n'étaient déjà plus d'actualité? Est-ce que les choses évoluent vite ou c'est une matière assez pérenne, ce que vous nous racontez le matin?
En science, là, en l'occurrence, j'ai vraiment pris des publications assez récentes. Donc, ça a passé la rampe de l'été, si je puis dire. Oui. Et donc, ça allait assez bien. Mais c'est vrai que au gré des découvertes, ça peut complètement changer. C'est-à-dire qu'on peut trouver tout d'un coup un nouveau fossile en paléoanthropologie. Et puis, l'Homo sapiens, qui avait 200 000 ans quand vous avez écrit le bouquin, il a 300 000 ans quand il paraît. Donc, vous avez quand même 100 000 ans dans la vue et ça vous énerve. Mais c'est pas le cas, là, j'ai eu de la chance.
Mais comme en littérature, il y a parfois sans doute des auteurs ou des courants qui nous plaisent pas. Est-ce qu'en science, il y a des parties qui vous emmerdent plus que d'autres?
C'est pas des parties qui m'emmerdent, c'est des parties que j'arrive pas en fait à aborder vraiment comme les maths. Ouais. Quoi. J'ai fait une émission d'une heure sur les maths, c'est impossible. Enfin, il faut trouver des...
Demandez à Cédric Villani.
mais si Cédric Villani me parle d'équations pendant une heure avec le langage des maths, je vais absolument rien comprendre. Donc, j'ai peut-être trouvé ça beau à l'oreille.
Ouais. Sans maths, aucune autre science n'est possible presque.
Oh non, pas forcément. Non, non. Mais
par des maths en physique, en chimie.
Oui, non, mais c'est vrai, mais on peut aller faire de l'archéologie sans avoir besoin forcément de mathématiques. Ah oui.
Carbone 14, si vous prenez du carbone 15, paf, c'est foutu, mon pote.
Oui, c'est vrai.
Il a très doué en maths.
Moi, j'aimais bien les sciences, mais j'ai pas aimé qu'on divise. Pascal, il faisait autant des sciences que des mathématiques, Leibniz aussi. Et en France, il y a une espèce de logique qu'on est l'un ou l'autre. Ouais. Vous prouvez que c'est pas vrai.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu toute une tradition du scientifique qui avait vraiment une culture générale de beaucoup, beaucoup de choses et qui était doué en tout. En plus, là, les gars au 18e, je sais pas comment ils faisaient, mais ils avaient une culture qui était absolument incroyable. Et aujourd'hui, évidemment, on est très, très spécialisé dans les disciplines. Donc, les frontières sont peut-être moins poreuses. Mais c'est vrai que le but aussi, c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble de toute la science. Ouais. Et c'est vraiment hyper varié, pour le coup. Il y a une diversité folle. Ouais.
Et cette sensibilité littéraire, on l'entend bien le matin. C'est un exercice, la chronique.
Ah oui, c'est nouveau.
Par rapport à l'émission où votre plume peut plus se lâcher. Il y a notamment une chronique qui s'appelle Ikea, commode et crise de nerfs.
Ah oui, ça, c'est du vécu en plus.
Oui, où vous mettez du vécu. Il y a un chapitre qui s'appelle « Les chats, c'est tueur en série ». Vous terminez par un petit conseil. Vous rappelez quand même que la Ligue de protection des oiseaux conseille de ne pas laisser sortir votre félin au petit matin ou à la tombée de la nuit. Les souris et les oiseaux vous en seront éternellement reconnaissants.
Oui, parce qu'ils tuent des milliards d'animaux, des rongeurs, mais pas seulement, des chauves-souris, des lézards, mais c'est vraiment des tueurs en série. Hein. Et en Australie, c'est terrible. Ils sont obligés de construire des enclos qui font la taille de Paris pour protéger les animaux du pays, parce que les chats ont tout envahi. Quoi. C'est des dingues. Donc, ce gentil matou que vous avez à la maison, il faut le regarder autrement, parce que franchement, il peut faire des dégâts.
Juliette, elle en a un.
Les scientifiques supposent même que si les chats en avaient les moyens physiques, c'est-à-dire étaient proportionnellement plus à notre hauteur, ils nous bousilleraient, nous aussi, leur patron.
Vous avez lu ça?
Oui, dans le Figaro. Oui, c'est un article scientifique dans le Figaro.
Dans
tout
le
à
Figaro,
fait.
Oh mon Dieu, elle a lu le Figaro, oh là là.
Non, j'ai lu un article du Figaro.
Elle s'est trahie.
Ne te défausse pas.
Mais il y a de la très bonne science dans le Figaro.
Et habitué à votre voix, on lit les chroniques en ayant votre voix dans l'oreille. C'est très très agréable et très très bien écrit. Lisez Mathieu Vidard aussi, donc « Dernière nouvelle de la science », c'est paru chez Grasset. Et on a de la chance, il est avec nous jusqu'à 18h, Mathieu. On le garde un peu plus longtemps que d'habitude, le vendredi.
Je suis bien content.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Will I want
gonna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, mais oh, il y a Mathieu Vidard qui est là.
Est-ce que c'est normal cette histoire?
Mais bien sûr, puisque Mathieu Vidard publie un livre paru chez Grasset.
Le numéro est bien monté.
Ça a bossé, ça a bossé.
Dernière nouvelle de la science pour entourer Mathieu.
Eh ben ceux qui ont le droit d'être là à 17h, parce qu'on a l'habitude d'avoir Hippolyte Girardot, d'avoir Juliette Arnaud et d'avoir Christine Gonzalez.
Et bien sûr, l'information.
Bon, l'information, c'est son heure.
Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose,
le journal de presque 17h17.
Pensez printemps, mes amis.
Et on commence par les titres.
La première ministre britannique, Theresa May, a annoncé sa démission prévue le 7 juin. Elle est usée par l'interminable saga du Brexit.
Ouais, ouais, je vous dois donc 10 euros. Charline.
Ah bon?
Bah oui, j'avais parié qu'on débrancherait Vincent Lambert avant Theresa May et je me suis trompée.
Je me rappelle. À Cannes, le dernier film d'Abdelatif Kechiche fait fuir les spectateurs.
Ah oui, après notamment une scène de cunnilingus de 13 minutes.
J'ai jamais compris qu'un film de fiction puisse choquer à ce point.
Mais à la limite, quand c'est basé sur des faits réels, je peux comprendre, mais 13 minutes de cunnilingus, on est clairement dans la fiction, il n'y a pas débat. Hein,
voilà. Et des brèves.
Et oui, des brèves, ça prend pas 13 minutes et ça donne beaucoup de plaisir malgré tout.
Oh oui, Visorel. Allez, on commence par les Européens.
Oui, tendez l'oreille, un petit message sur scène du rappeur Romeo Elvis à son public jeune.
Et je sais que les élections européennes, c'est pas ce qu'il y a de plus bandant, mais franchement, faites-moi confiance. Allez vous faire chier dimanche pendant 2-3 heures, allez voter.
Voilà, c'est pas bandant, mais allez voter. Les Belges sont impliqués.
Justement, chez nous, la campagne bat son plein.
Et oui, hier, lors d'un débat, un politicien du centre tente un argument imparable pour déstabiliser son opposant écolo, en lui parlant justement d'une autre figure de ce parti écolo.
Je rappelle que M. Nollet dit sans cesse qu'il nous reste 10 ans pour agir, selon le rapport du GIEC. Il a raison. Je rappelle qu'il a été lui-même ministre pendant 10 ans. Je ne vois pas aujourd'hui qu'il fasse moins chaud.
Bam! Est-ce qu'on pourrait demander à Pascal Praud d'arrêter de jouer les spin doctors des partis en Belgique?
International. Oui. Encore un peu plus loin, la Chine attribue une sonnerie de téléphone spéciale aux citoyens endettés.
Oui, alors ça fait un peu flipper, mais franchement, entre nous, qui ne rêverait pas d'une sonnerie de téléphone qui gueule « Rends l'argent! Rends l'argent !» quand on appelle François Fillon.
Oui. Sans transition, la Suisse maintenant.
Oui, elle va pas être déçue, la mère Gonzalez.
En effet, apparemment, selon une étude de l'université de Genève, le sperme des Suisses est de mauvaise qualité.
Oui. Bah forcément, hein, quand sur les 300 millions de spermatozoïdes émis lors d'une éjaculation, il faut savoir lequel va à l'ovule, le temps d'organiser le référendum, et voilà, on est perdu.
En France, un lien a été établi entre Michel Fourniret et la disparition jamais élucidée d'une jeune femme dans l'Orne en 93.
Ouh là là, Michel Fourniret reprend donc la tête du championnat de France de cold case, juste devant Nordal Le Landais. Ils sont au coude à coude, on assiste vraiment à une course très serrée. Attention, parce que derrière, ça revient fort, l'anesthésiste de Besançon est dans la tête du groupe de poursuivants.
Oui, vous êtes prêts pour le tour, Alex?
Je suis prêt pour le tour.
Sport, justement, mais en football, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a été mis en examen pour corruption.
Oui, et si je peux me permettre de faire avancer l'enquête, le match contre Manchester, il n'a pas acheté, ça je peux vous le dire.
Tourisme maintenant, car sur l'île d'Elbe, les hôteliers remboursent vos vacances s'il pleut durant votre séjour.
Espérons pour l'économie locale que François Hollande ne passera pas 3 semaines là-bas cet été.
Allez, les dernières brèves de la semaine.
Oui, Toulouse, il surprend son cambrioleur et le déshabille. Hein, il ne faut pas cambrioler chez Jean-Marc Morandini.
Attention,
là je vais vous montrer un truc, il va être surpris Mathieu Vidard. À Bray-la-Buissière dans le Nord a lieu en ce moment le championnat de France de lancer de slip. Comment ça marche?
L'objectif est d'envoyer l'un des slips officiels le plus loin possible.
Bon, jusque là ça semble évident, mais attention, il y a des règles assez précises.
Seuls les slips fournis par nos soins seront acceptés pour le lancer. Vous pouvez le laisser tel quel, le mouiller avant l'envoi ou même l'enrouler. Mais il est interdit de le mettre en boule. Il doit être lancé avec le pied uniquement.
Attention, et tout ça est bien mesuré.
L'unité de mesure utilisée est bien spécifique à ce sport. C'est le sgeg et la coucougnette. Et il faut 3 coucougnettes pour faire un sgeg.
Ça semble à peu près logique, et attention, si vous pouvez vous inscrire, vous pouvez gagner...
Le Golden Calbut pour le champion de France, le Saver pour le second et le slip à bretelles pour le troisième.
Voilà, de rien.
Merci. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en week-end de brève. Vous avez donc 2 jours de répit.
C'était bien, je la gardais, je l'avais depuis longtemps.
Et oui, vous aurez bien
slip, je me dis, je la garde pour un bon moment.
Bien sûr, vous aurez pu la remettre dans la culotte, c'est sûr. On poursuit cette émission de Par Jupiter avec Mathieu Vidard qui nous accompagne jusqu'à 18h et on va aborder ce premier thème avec vous, Mathieu.
Oui.
Coca-Cola finance des études scientifiques. Et quand la multinationale paye des chercheurs et des experts de la santé, bizarrement, pourquoi vous rigolez?
Non, parce que je vois arriver votre analyse du sujet. Je vous connais maintenant après ces années.
Mais quand c'est Coca-Cola qui finance, bizarrement, le sucre, c'est moins un problème pour le diabète et l'obésité. Que voulez-vous que je vous dise? Le Monde a enquêté et dévoile que Coca-Cola a allongé 8 millions d'euros depuis 2010. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une étude a été financée par une entreprise privée, quid de la transparence dans le domaine scientifique? Écoutons ce qu'en disent les journalistes qui ont enquêté.
J'arrête le sucre.
T'arrêtes le sucre, toi?
Mais évidemment, ils en collent partout. T'as pas regardé? Si tu les écoutes, bonne maman, c'est Pablo Escobar.
Non, quand même.
Mais partout, ils en mettent, je te dis, partout, partout. Dans le jambon, dans les plats cuisinés salés, dans la vinaigrette. Partout. Les gens, ils sont camés au sucre. Alors moi, je me ferais pas avoir. Excuse-moi.
Mais c'est grave, pourquoi ils font ça?
Mais je sais pas, soi-disant conservateur et tout. C'est pour provoquer l'addiction que nous, comme des moutons, on achète. Ah non. Et puis c'est pas du bon sucre, hein. Attention, c'est pas le bon sucre, le sucre de canne, roux, délicieux. Non, c'est des trucs raffinés, c'est chimique, c'est une immondice. Et après, les gens, ils sont complètement drogués. Non, on ne trouve plus de bon sucre, hein.
Catherine et Liliane, bien sûr, les personnages d'Alex Lutz et Bruno Sanchez. C'est d'ailleurs l'objet d'une chronique que vous avez reprise dans le livre et étoffée, Dernière nouvelle de la science, paru chez Grasset, Mathieu Vidard, chronique sur le sucre, une drogue. Alors, quand on a vu ce sujet sur Coca-Cola qui allonge le blé pour financer des études, ça veut dire qu'il y a des scientifiques et des spécialistes de la santé qui acceptent de faire des études financées par Coca-Cola. Aux États-Unis, les montants sont encore plus élevés, bien sûr. On se dit, nous, leur premier réflexe, c'est quand on voit études scientifiques dit que, on dit oh bah ça c'est du sûr. Vous qui présentez la tête au carré qui êtes là-dedans, quand vous
d'ailleurs l'émission est financée par Coca-Cola, mais vous ne le savez pas.
Non mais on se dit, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber dans un panneau et de vous dire ah zut, cette étude là, on dirait que c'est un peu louche.
Ça m'est arrivé une fois avec un scientifique qui travaillait pour l'industrie laitière, et en fait on s'en est rendu compte au fil de l'interview, parce qu'il était tout à fait favorable et vraiment il y allait dans son discours très ouvertement pour dire bah il faut consommer des produits laitiers. Et puis en fait à la fin de l'émission, j'avais énormément de coups de fil et de mails de gens qui avaient vérifié sur internet, et on s'est fait piéger une fois. Je peux vous dire que depuis on vérifie vraiment. Non mais c'est vrai que les liens d'intérêt, ça, c'est très emmerdant quoi, parce que quand on parle de science, il faut être libéré au maximum de l'industrie, surtout dans le domaine de la santé, de la médecine, parce que là Coca-Cola qui finance des médecins du sport pour nous inciter à faire du sport histoire qu'on oublie de boire des boissons sucrées, parce que tout le message là en l'occurrence a été axé sur le sport, en oubliant totalement de parler des sodas pour que justement il n'y ait pas de suspicion. Et on sait bien que les sodas aujourd'hui, toutes les études du monde posent des problèmes pour le diabète de type 2, l'obésité, et voilà. Donc, mais il y a des Français qui ont été payés par Coca-Cola.
À qui on doit en vouloir ? Est-ce qu'on doit en vouloir à Coca d'essayer de prouver ça, ou aux scientifiques qui du coup fait parjure ?
C'est quand même le problème des scientifiques. Là, c'est un vrai problème éthique du chercheur. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, loin de là. Mais enfin, il y en a qui acceptent d'être payés grassement par l'industrie. Mais c'est une vieille histoire, ça, parce que dans les années 50, par exemple, lorsque l'industrie du tabac a financé aussi les chercheurs à l'époque où on commençait à savoir qu'il y avait un lien entre le cancer du poumon et du tabac, je peux vous dire qu'ils annulaient aussi beaucoup, beaucoup d'argent pour qu'il n'y ait pas de publication en ce sens, ou en tout cas des publications qui disent qu'il n'y avait aucun lien direct entre la cigarette et le cancer du poumon. Mmh. Et puis depuis, l'amiante, il y a eu beaucoup, beaucoup de dossiers là-dessus, le bisphénol A par exemple. Là aussi, il y a vraiment des problèmes. Et il y a d'ailleurs Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde, qui a sorti un livre qui s'appelle La fabrique du mensonge et qui raconte toute cette saga qui est vraiment passionnante, quoi, sur le financement de certains scientifiques par l'industrie. Voilà. Et certains scientifiques qui deviennent vraiment des public relations de ces marques, quoi, de ces grandes industries. Donc là, ça pose problème.
Et pour terminer sur ce sujet, quand vous dites on vérifie, donc dans votre travail, quand vous préparez l'émission La tête au carré, vous devez à chaque fois. Donc c'est quasiment systématique, ou il y a des scientifiques dans lesquels vous avez confiance?
Oui, c'est ça. Il y a quand même tout un tas de gens qu'on connaît aussi maintenant.
Les Bogdanov, ça, c'est sûr.
Voilà, c'est ça, qui sont venus souvent dans l'émission.
Il y a des influenceurs chez les scientifiques?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y en a, évidemment. Oui, oui. Et d'ailleurs, ils sont sur Internet aussi, et on les connaît bien.
Et on sait de qui on doit se méfier.
Oui, il faut faire vraiment attention, parce que ça a été un souci vraiment constant dans l'émission depuis 12 ans. Ça a été de faire attention aux liens d'intérêt entre les chercheurs et le sujet, parce que sinon on perd toute crédibilité. Et bon, parfois on peut tomber dans le panneau, ça peut arriver, et on est très malheureux, je peux vous dire.
La tête au carré, tous les jours à 14h, qui fête ses 13 années déjà.
Oh là là, le vieux dinosaure de la science.
Vous ne les faites pas.
Vous renouvelez tout
Botox.
Le temps. On dirait que vous êtes tout neuf. Comme un sous-neuf.
Je vous aime.
Comme Hippolyte Girardot.
Aussi, je suis influencé, vous croyez, vous voyez que je suis payé par quelqu'un pour faire mon...
Par le Festival de Cannes, peut-être.
Eh oui, car je reviens de Cannes. Cannes. Son Mistral là, qui fait plier ses palmiers et soulever ses jupes pour montrer des dessous affriolants que des mannequins font semblant de dissimuler. Cannes qui célèbre en 10 jours le cinéma, la parité, la lutte contre l'environnement, la survie des animaux, la légende de la pétanque et l'excellence du Vacherin. Cannes qui offre ses invités gâtés aux chasseurs d'autographes et de selfies qui campent jour et nuit devant ce qui s'appelle le palais. Cannes et ses fameuses 24 marches qu'il faut gravir pour accéder à la gloire ou à l'infamie. Cannes et son tapis rouge qu'elle laisse après la clôture pendant plusieurs jours à la plèbe qui s'amuse à le fouler en prenant des poses burlesques qui moquent celles et ceux qui les ont précédés. Cannes qui désigne de sa palme divine les films élus parmi les milliers tournés chaque année et les projette en pleine lumière dans la plus belle salle de projection du monde, la bien nommée Amphithéâtre Lumière. Cannes qui se déguise en salon de coiffure glamour avant de se transformer en salle de meeting politique. Cannes qui ne serait rien sans ses drames, ses mises à mort, ses scandales, ses salles vidées par rangées devant les provocations misogynes ou sublimes, c'est selon. Cannes qui annonce des films qui ne se feront jamais, ou pire, qui se feront. Cannes qui réussit à nous faire faire la queue dans une soirée pour un Esquimau au nom de séries américaines fabriquées devant nos yeux. Cannes qui nous fait oublier qu'il y a le jour et la nuit pour que notre corps survive, et donc nous fait boire du champagne pour oublier qu'il faut manger. Cannes qui, comme cette chronique devrait le faire, s'arrête désormais plus tôt, le samedi, donc demain, pour une raison qu'on ignore, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est à la fois la fête des maires et les élections européennes. Cannes, donc, qui se souvient être né en 1939, pour concurrencer Venise, festival concurrent dirigé par les nazis et les fascistes, et dont la première édition fut annulée car l'Europe unie, alors, n'existait pas, et se déchira pendant 5 ans. Cannes qui donc nous libère dimanche afin que nous votions pour une Europe qui doit rester unie et suffisamment libre pour être notre mère à tous. Cannes, yes, oui Cannes.
Oh, Hippolyte Girardot, Cannes vous inspire tellement, c'est beau.
Hein? Vous avez vu ça?
Merci Hippo.
Quel effort.
Mathieu Bidard est avec nous jusqu'à 18h dans Par Jupiter.
Les gens quand ils sont les uns dans les autres, veulent-ils s'alléger de tous leurs tourments, veulent-ils se laver de toutes leurs fautes, veulent-ils retrouver la légèreté, ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire, faire, faire l'amour. Faire, faire, faire l'amour. En simulant au cœur mon premier jour, tout simplement. Allons se jeter de tout du haut de la tour. Quand ils sont les uns dans les autres, quand ils sont peau contre peau, quand ils ont bien refermé la porte, se disent-ils des mots, des choses que l'on chuchote et qui font que la peau aspire la douceur de la phrase, la syllabe presque morte. Faire, faire, faire l'amour. Faire, faire, faire l'amour. En simulant comme en premier jour, se jeter de tout du haut de la tour. Les gens quand ils ne sont plus les uns dans les autres, parfois ne se reconnaissent plus, il y a quelque chose qui frotte.
Mieux sec, les gens quand ils sont les uns dans les autres. Mais oui, ça c'est Mignosec qui l'a dit.
C'est bientôt le week-end.
Ouais,
go.
Voilà.
C'est chaud.
N'oubliez pas de vous déboîter pour aller voter dimanche quand même. Vous écoutez France Inter. Oui, vous écoutez Par Jupiter. Vous devez le deviner maintenant.
Oui.
Mathieu Bidard est en notre compagnie. Et également celle qui nous vient de Suisse. C'est le jour de Christine Gonzalez.
C'est ce soir la fête des voisins. Et dans l'au-delà, évidemment, le voisinage aussi. Ça s'entretient, ça se chérit. La fête des voisins, c'est l'occasion de mettre un visage sur le cinglé du troisième, discuter avec la bombe basse exibo du rez-de-chaussée et puis faire des guiliguilis à ce bébé que l'on empaillerait bien à 3h du mat lorsqu'il pleure. La fête des voisins, c'est parfois la perspective de nouvelles amitiés. Dans l'au-delà aussi, des duos improbables se forment et c'est là qu'on apprend que Johnny Hallyday et Simone de Beauvoir sont devenus cul et chemise depuis quelques temps. Oui, tendez l'oreille.
J'ai voulu me resserrer sur l'essentiel de la vérité.
Donc je pense que ça peut donner une idée de vérité.
Oui.
J'aimerais bien savoir quel effet tu as eu d'abord quand nous nous rencontrions. Et comment cette impression a pu se modifier. Qu'est-ce que tu as... Comment tu m'as vu, enfin.
J'ai voulu changer justement d'entourage pour avoir l'essentiel de ce que j'ai besoin d'avoir, c'est-à-dire des gens vrais,
oui.
Des gens sains,
absolument.
Des gens qui pensent comme moi. Et...
Parce que malgré tout, je suis une intellectuelle.
Oui, bien sûr.
La fête des voisins, ce sont des solitudes qui se rencontrent entre une assiette de taboulé et une salade de pâtes. Regardez bien, il y a toujours le voisin qui vient avec son animal de compagnie, qui reste seul dans son coin et qui laisse sa bébête lécher ses bouts de doigts qui sentent les chips au paprika. Là, en l'occurrence, c'est Jean Gabin qui est venu avec son nouveau chat qu'il a adopté la semaine dernière, Grumpy Cat.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça, moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais.
À la fête des voisins, il y a toujours le vieux monsieur bourré. C'est lui qui siffle tout le rosé. En l'occurrence, ici, c'est Michel Galabru.
Eh oui.
Mais vous n'avez pas passé la soirée seul, hein?
Juste une dame, deux ou trois, là, avec des airs un peu abrutis. Et là, le...
Et vous buvez pour compenser.
Une bonne giclée.
La fête des voisins vous plaît pas?
On ne se connaît pas, et on ne se connaîtra jamais. Et alors, ce qu'il y a de cocasse, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour plaire aux uns et aux autres. On se met, comme on dit, sur 33, et on ne peut pas être sincère tout à fait. Mais il faut y aller.
Merci pour ces quelques mots. Écoutez, je vais vous laisser profiter tranquillement de votre soirée, Michel Galabru. Hein.
Poufias.
Voilà. La fête des voisins, c'est aussi l'assurance de riches et constructives discussions. Et de quoi on cause à la fête des voisins, à votre avis? De politique. Ben oui, évidemment, ce soir, on évoque à coup sûr l'Europe et le Brexit qui a poussé Theresa May à la démission. Il parle de ça, Michel Rocard, avec Jacques Sardou et Léo Ferré.
Tout ça est navrant.
Oui, bien sûr.
C'est un drame affreux.
Oh.
Parce qu'il ne joue pas le jeu.
Voilà.
Nous n'en pouvons plus de cette situation qui a affaibli l'Europe.
Eh ben, t'as raison.
Le pays qui a le leadership du refus de tout.
Oui.
C'est quand même la Grande-Bretagne, ça.
Gros sac à main.
C'est scandaleux.
Tout de même, c'est mal foutu, la société, non?
Profondément immoral.
Et puis, à la fête des voisins, il y a toujours le mec qui se plaint.
Mademoiselle.
Oui, Sacha Distel.
Oh, quelle nuit.
Quel est le problème?
Tellement de bruit.
C'est pas si grave le bruit.
Hein?
Quel malheur, quel grand malheur pour moi.
Mais pourquoi vous n'aimez pas la fête des voisins?
Lorsque j'étais tout petit.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé?
Je me souviens qu'un jour notre maison prit feu.
Ah oui, d'accord, je comprends. C'est...
Jamais je n'oublierai le regard de mon père quand il me prit dans ses bras pour m'emporter dehors à travers les flammes.
Ouais, bon bah je comprends, mais c'était il y a longtemps et puis ça n'arrivera pas. Regardez, il y a aucun feu ce soir.
Allumé.
Non, Johnny, c'est pas... Johnny, ça suffit, arrêtez.
Je me sens en forme.
Bref. Ce qui est bien, la fête des voisins, c'est que ça a toujours une fin. La fête des voisins, on y allait en reculant, on en ressort en titubant. On s'embrasse chaleureusement, on se dit que ce sera quand même chouette de remettre ça l'année prochaine. Et comme dirait Romain Gary, depuis l'au-delà...
Les prochaines 20 000 années seront très difficiles.
Belle fête des voisins à toutes et à tous.
Merci Christine Gonzalez. Merci, c'est la magie des archives, c'est incroyable. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas faire en télé, vous voyez. Comme quoi, la radio, c'est quand même beaucoup plus rigolo. Vous écoutez France Inter, vous écoutez Par Jupiter. Restez avec nous car Frédéric Fromet nous amène une camarade. Ça va être une belle surprise.
Eh,
bien sûr. Et on va aborder cet autre sujet avant d'écouter Juliette Arnaud. La culture générale. Elle est source de plaisir et elle crée souvent le malaise parce qu'elle revêt une valeur particulière en France. On se sent parfois jugé quand même sur sa culture générale. Alors qu'elle ne s'apprend pas beaucoup à l'école, mais surtout à la maison, ce qui en fait le plus souvent l'attribut de la bourgeoisie. Elle traumatise pas mal d'étudiants qui entrent dans l'enseignement supérieur. Alors comment brouiller le marqueur social de la culture générale?
Ah, Louis XVI, c'était le roi de France. Le peuple, ils en avaient marre de sa gueule. Tu as vu que le gars, il en branlait pas une et eux, ils mangeaient des cailloux. Alors que sa meuf, Marie-Antoinette, frère, elle mangeait des cupcakes tous les jours. Cupcakes banane, cupcakes poire. Les gars, ils sont là, ils mangent des cailloux. Ils sont déconnés, elle peut pas nous donner un petit bout. Allez. Là, la meuf, elle part en Autriche. Mais juste avant, là où elle était bon, Louis XVI, parce que mine de rien, c'était pas un teubé. Il lui fait un gosse, un Marie-Antoinette. il arrive à la ken, genre un quart d'heure avant de se couper la tête, tu vois.
Serge Le Mito, par Jonathan Cohen, bien sûr. Alors, ce sujet, nous l'avons lu dans Le Monde, avec un titre un peu fort qui traduit que, qui dit que la culture générale peut traduire parfois un sentiment d'humiliation. Alors, je me disais, Mathieu Vidard, est-ce que vous avez déjà ressenti ce complexe vis-à-vis de la culture générale? Parce que vous le donnez aujourd'hui, ce complexe, peut-être, à des gens.
Oui, en jouant au Trivial Poursuit, par exemple, c'est l'humiliation au terrible.
Mais non,
c'est horrible quand on répond pas aux questions.
Le camembert vert, vous êtes bon.
Bah, pas toujours, c'est ça qui est terrible.
C'est
très humiliant parce que moi, on considère que je peux répondre à toutes les questions de science. Or, c'est faux, évidemment, je suis un imposteur. Donc, quand je joue au Trivial Pursuit et que je trouve pas la question verte, c'est affreux, quoi.
Oui, évidemment, une pression.
Mais le truc avec la tête au carré, c'était justement ça, c'était d'essayer de faire une émission où on sente pas cette espèce d'humiliation du savoir qui tout d'un coup vous tombe dessus comme ça. Et l'idée, c'était de recevoir des scientifiques tous les jours qui soient en capacité justement de nous faire partager leurs connaissances, mais sans qu'on se sente écrasé par leur savoir, parce que sinon c'est insupportable, on n'apprend rien dans ces cas-là.
D'ailleurs, dans l'article, il y a un témoignage de Julie qui arrive en prépa littéraire, qui ressent un petit peu ce complexe vis-à-vis de la culture générale. Elle dit « Je suis arrivée au milieu de beaucoup de fils de profs, je cite, qui ont grandi en écoutant France Inter. » Mais il y a une conception française particulière de la culture générale. Nous qui sommes belges, c'est quelque chose qu'on regarde avec un peu de curiosité. C'est quelque chose qui est... Oui, on dirait que ça sert à identifier un capital culturel, à accepter des gens, en exclure d'autres dans des concours, etc. On sent toujours un peu jugé si tu connais pas ça, etc.
Ouais. C'est vrai que c'est un peu un marqueur social quand même, inconsciemment, où ça peut exclure vraiment les gens. Et là, ça devient vraiment désagréable. Alors que, encore une fois, ça doit être quelque chose qui nous réunit parce que c'est le partage de la connaissance et on n'a pas à avoir honte de ne pas savoir.
Je pense que c'est savoir dire non qui est important. Enfin, c'est-à-dire savoir dire je ne sais pas qui c'est. Et c'est votre boulot sans doute quand le scientifique est trop pointu.
Quand je comprends pas, mais même un mot, par exemple, ne pas avoir honte de dire au scientifique, ben moi je comprends pas votre mot. Et a priori, je pense que derrière le poste, il y a plein de gens qui le comprennent pas non plus. Donc, mais c'est effectivement, ça doit être très français, ça, cette espèce d'élitisme du savoir. Et mais c'est insupportable quand ça devient comme
ça. C'est plutôt agréable. Si vous dites quelque chose qui m'échappe, je prends note du nom et puis je me renseigne et puis je vais peut-être acheter un bouquin.
Premier de la classe.
Non, j'aime pas dire spontanément. Je sais pas si tout le monde a l'air de savoir. Mais par contre, c'est bête de pas prendre l'info.
Et est-ce qu'au Trivial Poursuit, il y a une couleur de camembert dans laquelle vous êtes hyper fort?
Hyper fort, plutôt le rose. Moi, j'aime bien le rose, les arts.
Ça me plaît bien.
J'ai une tête rose.
Divertissement. Cinéma.
Je suis nul en sport, par exemple. Orange.
C'est la culture générale, le sport?
Très, très mauvais.
Dis celle qui, à mon avis, est pas douée dans tous les haltérophiles bulgares.
Non, c'est sûr. Non, mais jouer au Trivial Poursuit avec moi, je suis nul, de toute façon.
Ça m'étonnerait, ça.
Et comment vous êtes forgé, votre culture générale à vous, en dehors de la science? Est-ce que ça a été familial? Est-ce que ça a été... Vous êtes quelqu'un de très curieux.
Oui, mais je suis pas quelqu'un d'ultra cultivé, justement. Moi, je suis allé à l'école très peu. J'ai passé mon bac. Je suis allé une année à la fac. J'ai passé d'ailleurs beaucoup plus de temps à aller sur la plage avec mon chien qu'à aller en cours ou à prendre des cours de chant. D'ailleurs, ça m'intéressait plus. Et moi, j'avais envie de faire de la radio, quoi. C'était mon truc. J'avais envie de rencontrer les gens, de poser des questions. C'est ça qui m'excitait, quoi. J'avais pas envie de faire des études très longues. Donc, j'ai pas une culture générale très très importante. Par contre, je peux vous dire que depuis que je fais la tête au carré, j'ai l'impression d'être allé à la fac tous les jours avec des super profs. Et d'avoir appris beaucoup, beaucoup de choses.
Vous ne pouvez pas dormir au fond de la classe, en plus, parce qu'ils vont rire bien.
Non, je peux vous dire qu'on n'a pas envie de dormir, parce qu'en plus, nous, on a la chance de pouvoir choisir les gens qu'on invite. Et les scientifiques qu'on fait venir, c'est justement ceux qui sont capables de partager.
Ah, vous avez cette chance, parce que nous, c'est la direction qui nous a dit. La direction nous a dit, Mathieu Vidard, il n'est pas encore venu.
Non, c'est parce que je suis venu gratter à la porte avec mon livre.
Je plaisante, bien sûr, mais oui, Mathieu Vidard. Et dernière nouvelle de la science, c'est le livre qui est paru chez Grasset, l'ensemble de vos chroniques matinales, tous les jours à 7h20, l'édito carré que vous avez étoffé, revu, corrigé. Et à côté de vous, on va parler de livres aussi avec Juliette Arnaud.
Oui, alors, et un livre écrit par une femme anglaise, et alors très très anglaise, qui s'appelle Vive Albertine. Mais peut-être c'est parce qu'elle est à moitié française, son famille est Albertine, qui est quand même éminemment proustien. Donc Vive Albertine, elle ponctue son livre de citations. Donc justement, la culture générale, c'est le camembert marron, au Trivial Poursuit. Mais vu que ce sont vraiment de manière exhaustive que des citations d'autres écrivaines, d'artistes, ou de penseuses, avec pour thème commun la féminité, c'est pas tout à fait la culture générale, mais c'est quand même la moitié de l'humanité. Par féminité, n'entendez pas l'art de choisir le bon vernis à ongles, ou de comment croiser les jambes sans montrer sa culotte, mais c'est quoi, comment être une femme dans notre monde. Alors, exemple d'une de ces citations qui ponctue le roman, c'est une citation de Georgia O'Keeffe qui dit « J'ai été absolument terrifiée à chaque instant de ma vie, et je n'ai jamais laissé cela m'empêcher de faire la moindre chose que je voulais faire. » Et vu que Vive Albertine a fait punk dans un groupe de filles dans les années 70, on se doute que oui, Vive, elle a fait ce qu'elle a voulu, elle, pas la bonne société. Le groupe de punk, elle nous l'avait raconté avec grâce et fureur dans un autre livre qui s'appelait « De fringues, de musique et de mecs ». Ici, avec son nouveau livre qui s'appelle « À jeter sans ouvrir », à nouveau la grâce et la fureur, avec au centre une autre femme, sa maman. Sa maman prolote, sa maman divorcée, sa maman déterminée. Avec une rengaine qui est à la base de son récit, si je n'avais pas eu une mère aussi forte. Alors si je n'avais pas eu une mère aussi forte, je ne me serais pas relevée, je n'aurais pas insisté, je me serais tue. Et là, on arrive au deuxième arc narratif. Est-ce que vous vous souvenez de l'incipit de L'étranger de Camus ?
Ce matin, ma mère est morte.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou hier, peut-être, et je ne sais pas.
On donne le camembert à Christine. C'est pas loin.
Allez,
on lui donne.
Donc, aujourd'hui, ma maman est morte. Ou hier, peut-être, je ne sais pas. Eh bien, voilà, le livre de Vive Albertine, c'est le miroir inversé de L'étranger de Camus. La maman de Vive est morte, elle vient de mourir. Mais Vive, à la différence de Meursault, l'anti-héros de Camus, Vive, elle sait très bien de quel jour il s'agit. C'est même le jour où elle célèbre la sortie de son livre, l'ancien. Et non seulement elle sait le jour, mais elle sait les minutes, elle sait les secondes et elle en rythme son livre. Alors vous êtes peut-être en train de penser chez vous, mais merde alors, non, je veux pas, c'est trop triste, je préfère encore Meursault qui s'en fout. Eh ben cessez de penser de la sorte où je vous fais livrer un tartare de bébé dauphin. Si, je le ferai. Parce que oui, c'est triste, mais Vive Albertine... N'oubliez pas que ça reste l'ex-guitariste des Slits, c'est-à-dire les Fentes, l'ex-meilleur pote de Sid Vicious. Alors même quand la maman va mourir, dans son lit d'hôpital, ça dérape, il y a même une bagarre, et c'est affreux, mais c'est drôle et c'est déchirant. Meursault, celui de Camus, semblait comme étranger à sa propre vie et à la vie des autres, ben Vive, c'est l'inverse. Et surtout, elle ne veut pas l'être étrangère à sa propre vie, alors elle la décortique. C'est quoi cette vie faite de plus d'aventures et de plus d'erreurs que la moyenne des gens ? C'est que toutes ces aventures, Vive n'a jamais cessé de les raconter à sa mère, même quand sa maman était très très vieille à la retraite. Elle écrit « Pour combler les vides de son existence à ma mère, je lui racontais dans le détail toutes les aventures que je vivais et j'y suis pas allée de main morte. Contre tout ce qu'elle m'avait donné, je n'avais rien à lui offrir, ni argent, ni laurier. Ma seule monnaie d'échange, c'était mon temps et la grande pagaille de mon existence. » La vieille dame est arrivée à 95 ans. On peut supposer que ce récit Scheherazade 2.0 lui avait profité. Avant de vous laisser le titre, à jeter sans ouvrir. Après la mort de sa maman, Vive Albertine range les affaires et elle trouve un sac vert où est écrit « To throw away unopened », c'est-à-dire « à jeter sans ouvrir ». Vive Albertine, celle qui cite, je vous le rappelle, Georgia O'Keeffe, j'ai été absolument terrifiée à chaque instant de ma vie, mais je n'ai jamais laissé cela m'empêcher de faire quoi que ce soit. Elle a fait quoi, à votre avis, avec le petit sac vert ? Eh ben, elle l'a ouvert. Est-ce qu'elle y a découvert ? C'est une excellente question, presque aussi bonne que, et vous ? Vous feriez quoi avec le petit sac vert ? Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud.
Elle n'a pas spoilé cette fois.
Non, vous pouvez rappeler.
Alors, ce que vous avez... il y a. Le livre s'appelle « À jeter sans ouvrir ». C'est écrit par Vive Albertine et c'est chez Buchet-Chastel.
Merci Juliette Arnaud. Une chronique qu'on peut réécouter en podcast, bien sûr, comme toutes les chroniques et comme cette émission, car la radio évolue, bien sûr.
Mais
c'est
le troisième sujet.
Attention, nous avons choisi. Oui, les Français possèdent en moyenne 6 supports pour écouter la radio, entre le poste classique, le téléphone, la chaîne IFI, l'autoradio et d'autres. Et puis parfois qu'on a en plusieurs exemplaires, hein, voilà. Et de plus en plus, un poste de radio numérique, le DAB, Digital Audio Broadcasting, oui, à ne pas confondre avec la radio connectée Wi-Fi qui, elle, permet d'écouter toutes les radios du monde.
Radio Ganaswinda, bonjour. Radio Ganaswinda, bonjour. Eh bien, bonjour, il fait une journée splendide, l'eau est à moins 3 degrés. On attend la neige pour cet après-midi, si vous conveniez, couvrez-vous bien. Bonne journée.
Les bronzés.
Et c'est la fin de saison, hein. Ça se sent, c'est l'été qui arrive.
Patrice Lecomte. Non, parce qu'avec le jeu de mots dab, oui. J'ai fait un dab encore.
Et vous avez pris le micro d'à côté, bien sûr. De l'autre côté, c'était mon œil. Donc... Heureusement que vous êtes droitière.
La régie est morte de rire, du coup je rigole et voilà. Et
alors
bien
qu'on
sûr.
Est dans une émission sérieuse.
Mais vraiment, c'est vrai. Oui, alors Mathieu Vidard.
Oui. Dois... pour une fois que je peux rigoler. Mais... j'ai pas souvent l'occasion, alors laissez-moi.
Avec l'Institut de France, ça rigole moins.
Nous avons trouvé cet article dans la lettre de la radio et c'est à partir d'une étude du CSA aussi qui effectivement dit que les Français possèdent en moyenne 6 supports pour écouter la radio, que la radio numérique elle progresse au point qu'on a de plus en plus des autoradios numériques. Vous, déjà, vous écoutez comment la radio aujourd'hui alors qu'il y a 1000 façons de l'écouter?
Sur mon téléphone portable, uniquement.
Ah oui,
c'est vrai, ouais, c'est tout.
Ah, mais
vous branchez sur une enceinte chez vous
ou... Non, non, comme ça, je le balade partout. Et,
avec vos oreillettes.
Je le trimballe. Non, non, même pas. Je le laisse sur haut-parleur et j'écoute la radio.
Et tout le monde en
ça.
Profite. C'est pour ça que vous êtes célibataire.
Mais c'est pour ça que je suis seul.
Ah, mais c'est un grand changement parce que vous êtes un fan de radio. Vous avez toujours écouté la radio depuis tout petit avec un
ça,
poste.
C'était ma mère qui avait le poste de radio branché sur France Inter.
Et ça vous manque pas le son d'un poste radio traditionnel?
Mais j'en ai un en fait, mais je le mets jamais bizarrement maintenant. J'ai vraiment perdu l'habitude. C'est étrange. Mais ouais, non, puis j'apprécie de pouvoir bouger dans la maison avec le téléphone et de rien perdre, quoi.
Ça vous manque pas le son des grandes ondes?
Le son des grandes ondes?
Ah ouais, les longues ondes, bien
ouais.
sûr.
Ouais. Ben, c'est sûr que, enfin maintenant justement avec le DAB B, c'est ça, hein, on arrive à avoir un son de qualité. En fait, c'est ça aussi l'avantage de ces nouvelles technologies-là.
Ah,
le son est bien meilleur.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Donc on peut retrouver une sorte de chaleur qu'on a perdu un peu là depuis.
Ah, très bien. Et La Tête au Carré qui a 13 ans, en 13 années, est-ce que votre émission elle a évolué en fonction de l'évolution de la radio? Si on prend vos premières émissions et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une modification dans la forme?
Il y a eu un truc quand même dingue, c'est que en 2006, quand on a commencé, les smartphones n'existaient pas. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la préhistoire quand même. L'écran tactile en 2006.
Vous ne coupiez pas les bandes.
C'est... non plus, mais depuis peu de temps en fait. Donc il n'y avait pas les smartphones. Ouais. Vous rendez compte, c'est dingue ce qui s'est passé quand même en peu de temps. Et quand on regarde l'histoire de l'émission, les découvertes et les grandes innovations.
Parce que j'imagine que plein d'étudiants doivent vous dire que...
Ah, mais la première chose qu'on me dit, moi j'aime bien votre émission, mais je ne peux pas l'écouter. Parce qu'évidemment, elle est à 14h. Donc c'est l'heure où les gens font des choses ou la sieste d'ailleurs. Et donc le podcast permet d'écouter l'émission. Donc les habitudes ont complètement changé. Les gens consomment la radio à n'importe quelle heure, et ils écoutent leur programme à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit d'ailleurs, mais c'est bien.
Et on peut écouter en différé, et puis on peut zapper ceux qu'on n'aime pas, les chroniques qu'on n'aime pas trop, enfin hop, on avance.
C'est pas gentil parce que Girardot est là, donc vraiment c'est pas gentil.
Je rappelle que vous faites aussi des conférences.
Et gratuit.
C'était gratuit. Je rappelle que vous donnez aussi des conférences, Mathieu Vidard. Et si vous êtes abonné au fil podcast de Par Jupiter, eh bien nous avons ajouté le podcast de la dernière conférence, qui a été ajouté. Et donc vous pouvez l'écouter de cette manière, et puis aussi retrouver bien sûr sur franceinter.fr les conférences.
C'était la dernière conférence avec Lionel Nakache sur le cerveau, et le thème là c'était le sommeil justement.
Et voilà. Eh bien si vous allez sur le podcast Par Jupiter et hop, on vous a glissé la conférence avec Mathieu Vidard. Allez, c'est on arrive tout au bout de
Mathieu
de la
Vidard,
semaine.
Est-ce que vous aimez Stone et Chardin?
Mais j'adore.
Eh ben, vous allez pas être déçus parce
super.
Que c'est la version 2.0. Bonjour Frédéric Fromet.
Bonsoir.
Vous n'êtes pas venu tout seul?
Eh ben non.
Mais qui c'est?
Eh ben, c'est Guédré.
Oh, qui le show.
Bonjour. Allez, le sujet. Il paraît qu'un million d'espèces seraient menacées d'extinction. Heureusement, pas Guédré, que j'ai invité à chanter avec moi pour en parler.
Ouais, à toutes les coccinelles qui nous écoutent, à tous les lézards, à tous les ragondins, aux mammifères et aux invertébrés, écoutez notre son.
Les libellules qui battent des ailes,
c'est trop des putes.
Les abeilles qui essaient de nous amadouer avec du miel,
c'est trop des putes.
Les tortues qui sont toutes nues dans leur carapace,
c'est trop des putes.
Les grenouilles qui font voir leurs cuisses et qui coassent,
c'est trop des putes. Allez, refrain.
Toutes des putes, les espèces menacées, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes, il faut s'en débarrasser, c'est toutes des putes.
Pop, pop, pop pour les poneys.
Les poules sur un mur qui picotent du pain dur,
c'est trop des putes.
Les ours polaires dans leur manteau de fourrure,
c'est trop des putes.
Les tourterelles qui se croient trop belles quand elles roucoulent,
c'est trop des putes.
Les bonobos qui pour un oui ou pour un non s'enculent,
c'est trop des putes.
Allez, deuxième refrain.
Toutes des putes, tous les animaux, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes comme
le chien qui fait le beau. C'est toutes des putes, du bon gros son pour les poissons. Les souris vertes qui courent dans l'herbe, c'est trop des putes. Les singes sur lesquels on teste le rouge à lèvres, c'est trop des putes. Les rats de laboratoire qui essayent les vaccins, c'est trop des putes. Les crocodiles qui se travestissent en sac à main, c'est trop des putes.
Quoi ? Encore un refrain ?
Toutes des putes, les petites et les grosses bêtes, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes qu'elles dégagent de la planète, c'est toutes des putes,
des putes,
des putes, des putes,
des putes.
Toutes des putes là où ça fait de la peine, c'est qu'on connaît celles qui les butent. De toutes les putes, la pire c'est l'espèce humaine. Une vraie grosse pute.
Merci Frédéric.
Bravo, Fomé. Merci avec Guédré.
Guédré, on a une pensée pour tous les parents qui rentrent de l'école avec leurs enfants. Et Guédré qui est en tournée dans toute la France et à l'Européen en octobre, et on peut tout savoir sur guédré.fr.
Bien sûr, merci beaucoup. On ira vous voir Guédré, ben oui, à l'Européen, on est fans. Merci d'être venu.
Mais avec... c'est moi qui vous remercie, merci Frédéric Fromet.
Merci Guédré. Ouais. Merci Fred. Merci. Vous jouez ce week-end Frédéric Fromet?
Oui, à Saint-Thierry-la-Perche.
Ayez l'air content s'il vous plaît.
C'est où? En Haute-Vienne.
Ah, bah non mais c'est de l'humanitaire, c'est pas une tournée. Quoi,
ah là là, les deux réunis, j'avais très très peur et j'ai eu raison.
Oui,
j'ai
bien
merci les amis, merci beaucoup, merci Mathieu Vidard,
merci
d'avoir
beaucoup
passé cette heure avec nous. C'était un bonheur de vous retrouver le vendredi, même jusqu'à 18h aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez Dernières Nouvelles de la Science, c'est paru chez Grasset, une coédition France Inter bien sûr. Je rappelle aussi La Tête au Carré du lundi au vendredi de 14h à 15h.
Il y a une chronique qui s'appelle Putain les abeilles d'ailleurs.
Belle transition.
Et l'édito carré du lundi au jeudi à 7h20. On vous retrouvera mardi parce que la matinale nous prépare une spéciale européenne, donc vous pouvez dormir un petit peu plus longtemps
bon
lundi.
Dimanche, c'est la chouille, mais alors je réponds pas.
Et mardi, je vous retrouverai dans la matinale, ouais, parce que vous êtes une des personnes à qui je fais un bisou matinal.
C'est vrai.
Toute la
c'est
semaine.
C'est pas gentil pour Dominique, ce soir. Vous l'embrassez, je sais que vous l'embrassez.
Merci, merci à tous les amis.
Merci,
merci Christine Gonzalez, Juliette Arnaud, merci Hippolyte Girardot, merci Alex. On va se retrouver lundi, bien sûr, en compagnie d'Agnès Jaoui. Merci à toute notre merveilleuse équipe, à Sarah Masson, à la préparation avec Fabrice Rivaud, Nathalie Romero, Ramzi Assadi, avec la collaboration d'Emma Ferré, alias Elmar Servi du Petit Chablis, encore une fois. Céline Hila à la réalisation toute cette semaine, à la technique Michel Bézikian et Kevin Pelot. Et nous allons bien sûr laisser le mot de la fin à notre invité, Mathieu Vidard,
oui,
qui est resté un vendredi jusqu'à 18h.
Je devrais être en week-end, je fais des heures sup.
Ça vous fait quoi d'être à une heure de grande écoute?
Salaud.